Chapitre 5. Madame de Champrosay, que nous avons laissée en fiacre avec sa fidèle Justine, s'amusa fort des cahots du sapin qui vacillait sur ses ressorts fatigués. Et pendant le trajet, oh, qui dura longtemps, bien que le cocher, grassement payé, fouetta ses deux rossinottes avec toute la conscience imaginable, elle poussait le petit cri mêlé de rire chaque fois que la machine chancelante penchait d'un côté ou d'un autre, suivant les inégalités d'un pavé détestable, car monseigneur le lieutenant de police s'occupait beaucoup plus alors de chercher des histoires scandaleuses pour l'amusement du roi son maître que de la commodité des citadins. Enfin, l'on arriva, car on finit toujours par là, même quand on est parti en fiacre. Un petit savoyard, porteur d'un falot, tendit galamment le coude aux dames, qui descendirent par le marchepied, glissant avec une maladresse affectée, qui leur laissa le temps de faire voir aux gens attroupés à la porte une cheville bien tournée et un bas bien tendu. Le bal était commencé, les fenêtres de la guinguette du Moulin Rouge, vivement illuminées, montraient que les ordonnateurs de la fête, quoique bourgeois, n'avaient pas lésiné sur l'huile, fournie d'ailleurs par quelques-uns d'entre eux, qui exerçaient la noble profession d'épicier. Des tapissiers avaient apporté des banquettes et des festons de fleurs de papier, de sorte que la salle n'avait pas si mauvaise grâce qu'on eût pu se l'imaginer d'abord. L'orchestre, grimpé sur un tréteau recouvert d'une housse passementée de paillons, occupait l'embrasure d'une porte dont on avait enlevé les battants. Il se composait d'un violon qui, après avoir raclé sa partie au spectacle d'Odino ou des grands danseurs du roi, n'était pas fâché de gagner un petit écu de 3 livres dans le reste de la nuit à faire danser des bourrées et des rigodons. D'un tambourin qui marquait fortement la mesure pour la rappeler à des oreilles disposées à la mettre en oubli, et d'une flûte qui ne se permettait qu'un nombre suffisant de couacs. Certes, M. Rameau, qui s'est inventé de 6 savantes combinaisons musicales, eût pu trouver cet orchestre un peu maigre et barbare, mais il suffisait de rester à ce qu'on exigeait de lui. Il suppléait au nombre par le zèle. Le violon grattait les boyaux de son instrument avec furie et faisait les démanchés les plus extravagantes du monde, accompagnés de grimaces de possédés. La flûte gonflait ses joues comme un suppôt d'école dans le balai des vents et soufflait dans son turlututu de manière à se rendre la face du plus beau cramoisi. Le tambourin, agitant ses bras en démoniaque, battait sa peau d'âne à la crevée, et tous trois, de peur de perdre la mesure, la battaient fortement du pied, comme des ménétriers de village, et faisaient lever un nuage de poussière de la planche qui les supportait. Un broc de vin, où ils buvaient tour à tour de larges lampées, était placé à côté de ses amphions, et l'autel du Moulin Rouge remplissait complaisamment, ayant appris par expérience que rien n'est salé comme la musique, en jugé par l'altération inextinguible des musiciens. Cette harmonie qu'on entendait de l'escalier divertissait Madame de Champrosay, qui, jouant elle-même fort proprement du clavecin, était à même de distinguer les licences que cet orchestre sauvage se permettait avec les règles de la musique. Dans le trajet, Madame de Champrosay avait permis et recommandé à Justine de ne la point traiter avec un respect qui n'eût pas été naturel entre cousines. Elle lui ordonna même de la tutoyer, et comme elle ne pouvait pas s'appeler de son nom véritable, elle avait choisi celui de Jeannette, comme simple, pastoral et candide au possible. Quand Justine parut accompagnée de Jeannette, tout le monde se précipita vers elle avec beaucoup d'empressement. Elle présenta sa fausse cousine le plus naturellement du monde, et les galanteries de l'assemblée éclatèrent en compliments qui, pour être mal tournés, n'en furent pas moins acceptés avec plaisir. Les dieux, les rois et les jolies femmes avalent tout dans ce genre, et madame la marquise trouva que ces petits bourgeois étaient plus gens de goût qu'on ne le supposait. Un peu de balourdise en matière de madrigal ne nuit pas toujours. Cela prouve la sincérité. Trop de facilité inspire la défiance. Aussi, madame de Champrosay, qui était peu flattée d'entendre l'abbé ou le commandeur la comparer à Hébé, rougit-elle du plaisir en entendant une jeune fille, un jeune fils de droguiste de la rue Saint-Avoie, dire en passant près d'elle « Oh, quelle joue de pêche! Oh, on y mordrait !» Il est vrai qu'on ne pouvait rien voir de plus joli, de plus mignon, de plus frais et de plus fin que la fausse Jeannette. Quoiqu'elle portât l'habit de cour avec un air de princesse et la noble impudence d'une personne des mieux nées, le simple costume de la grisette lui seyait encore mieux. Le cotillon lui donnait encore plus de grâce que le panier de Cisone. Débarrassée de tous les attifets que la mode entasse, elle en était 100 fois plus charmante. Ses beaux cheveux, d'un blond cendré, au lieu d'être crêpés, pommadés, étagés en édifices extravagants, sur cascades de fils de fer et surchargés de nœuds, de plumes, de fleurs et de papillons de porcelaine, à peine nuagés d'un œil de poudre, retombaient sur un col blanc en large chignon et relevé à la chinoise sur le haut de la tête, et marquait les 7 pointes et découvrait un front poli et d'une forme parfaite. Madame de Champrosay n'était pas de ces ennuyeuses beautés à la grecque ou à la romaine, qui sont meilleures pour le marbre que pour l'amour. Ses yeux charmants, pleins d'esprit, animaient une physionomie éveillée, bien que capable, à cause de son extrême jeunesse, de jouer la naïveté en perfection. Son nez à la Roxelane manquait heureusement de ces irrégularités qu'on célèbre mais qui ne plaisent point. Quant à sa bouche, oh, c'était pour le dessin une miniature de l'arc de Cupidon, et pour la couleur, une de ces cerises doubles que Jean-Jacques Rousseau jetait du haut de l'arbre sur le sein de Mademoiselle Gallet. Quoique fort grande dame, elle n'avait rien d'invraisemblable en grisette. Son pied était bien petit et son soulier bien mignon, mais il est reconnu que les grisettes parisiennes, qui trottent comme des perdrix, valent pour la petitesse du pied les marquises andalouses et mettent beaucoup de coquetterie à se chausser. Pour les mains, dont les doigts effilés et roses dépassaient une petite mitaine de filet noir, leur délicatesse s'expliquait naturellement. Mademoiselle Justine n'avait-elle pas dit que sa cousine était ouvrière en dentelle? Et certes, ce n'est point à entrelacer les fils d'arachnée que l'on peut s'érailler les doigts et se casser les ongles. Jeannette devint tout de suite l'héroïne du bal. À peine pouvait-elle s'asseoir sur la banquette appuyée à la muraille, à côté de Justine, qu'elle était aussitôt invitée. Un galant avait été lui chercher un gros bouquet de roses du roi qu'elle tenait en dansant et dont elle avait placé un bouton sur son sein à l'endroit où les pointes de son fichu se rejoignaient. Dora, le porte-poète mousquetaire, lui dit que c'était pour parfumer la fleur. Un autre, clerc d'huissier de son état, lui avait fait le régal de 2 oranges et d'un éventail de papier vert, au dos duquel était gravé un air d'Emmeline. Ces galanteries réjouissaient fort Jeannette, qui recevait tout d'un air riant et s'amusait des gros roulements d'yeux et des grands soupirs du jeune droguiste et du troisième clerc. Elle ne s'était pas imaginée que ces espèces ressemblaient autant à des hommes que ceux-là. Ces bourgeois et petites gens, que jusqu'alors elle avait à peine entrevus du haut de son carrosse, fourmillant dans la crotte ou éclaboussés par son cocher, ou fuyant sous un déloge de pluie, la surprenaient par des façons presque humaines. Elle n'aurait pas cru que ces animaux-là sut s'exprimer en langage intelligible, dire des choses sensées et même galantes. Elle éprouvait le même étonnement que si son Carlin eût un jour, au lieu de japper, pris subitement la parole, ou que son sabajoux se fût mêlé à la conversation. Et encore, cela l'eût beaucoup moins surprise. Son Carlin était si intelligent et son sabajoux si spirituel, ayant été élevé par M. l'abbé. Ce n'est pas que Madame de Chambrosay eut des hauteurs affectées et fut méprisante, le moins du monde. Elle n'était pas entichée de sa noblesse, ne parlait jamais de ses aïeux et se souciait fort peu de son arbre généalogique. Mais elle n'avait jamais été en rapport avec d'autres gens que ceux de sa classe, qui tous se croyaient d'une argile choisie et d'un sang particulier. Elle remarqua que le troisième clerc d'huissier avait la jambe aussi bien tournée que celle du chevalier de Verteuil, qui la dandinait perpétuellement pour la faire remarquer. Ce qui l'étonna profondément, c'est que le fils du droguiste, bien qu'il ne rit pas à tout propos et hors de tout propos, avait les dents d'un aussi bel orient que les perles dont M. l'abbé tirait si fort vanité, qu'il eût ri en apprenant les nouvelles les plus désastreuses. Chapitre 6. Ces maroufs sont aussi bien faits que des goulantis hommes et ne disent pas beaucoup plus de sottises, pensa Madame de Champrosay en acceptant une invitation pour la contredanse suivante. Entraînée par l'élan et la naïveté du plaisir général, la fausse Jeannette s'abandonnait de tout cœur à la danse, étendait sans façon ses pâles mains aristocratiques aux pattes rouge-jaunes de ses compères, lorsqu'il s'agissait de former la ronde, surprise d'avoir, malgré son extrêmement bonne naissance, la trivialité de s'amuser elle-même comme une personne de peu ou de rien. On eût dit qu'avec les paniers, les diamants et le rouge, elle avait dépouillé cette langueur qui ne s'attache qu'aux gens qui sont de qualité et dédaigné les constitutions plus massives de la bourgeoisie. L'admiration naïve de ses pataux la flattait. Si elle n'était pas les plus finement exprimées, elle avait du moins le mérite de la sincérité. Pour toutes ces bonnes gens, elle n'était que Jeannette, cousine d'une femme de chambre, soubrette en haut lieu, il est vrai, mais nullement titrée. Là, point de marquisat, autre que celui de ses beaux yeux, et point de richesse que celle de son corsage. Elle fut heureuse de ne pas déchoir en prenant l'anonyme, qui n'est pas favorable à beaucoup de personnes, même des plus hauts placés. Elle dansait la gavotte, le menuet, la bourrée, en tâchant de ne pas laisser trop voir les grâces que lui avait apprises Marcel, et de se restreindre au naturel qui lui allait encore mieux. Cependant, quoiqu'elle s'amusât fort, elle n'avait encore rien vu qui répondît particulièrement à son projet, et parmi ses bonnes figures, elle n'en trouvait pas une qui produisît l'effet désiré. Les coups de foudre étaient à la mode en ce temps où l'on avait beaucoup abrégé les formalités gothiques dont s'entourait la pruderie de nos aïeux, il était convenu que les cœurs faits l'un pour l'autre pourraient s'entendre à première vue, sans se faire languir par tous ces soins mortels. Mais Madame de Champrosay, quelque désir qu'elle eût d'être foudroyée, ne trouvait pas un tel charme à la conversation de l'aimable droguiste présomptif et aux œillades du délicieux troisième clerc d'huissier, qu'elle ne jouit de sa parfaite liberté d'esprit et de cœur, et comme dans une figure de la contredanse, Justine, en passant auprès de sa maîtresse, semblait l'interroger de l'œil et lui demander si sa fantaisie avait fait un choix parmi ses galants, d'un imperceptible mouvement de tête, elle lui fit signe que non. Si elle restait insensible, elle avait fait d'effroyables ravages dans les cœurs de cette petite bourgeoisie, et les beautés du lieu, qui brillaient d'un éclat passable, avant le lever de l'astre nouveau, se trouvait presque à demi éteinte par sa lumière. Mesdemoiselles, Javotte, Nanette et Denise, presque abandonnées de leurs adorateurs habituels, restaient dans une solitude maussade, comme si elles eussent été des douairières ou des aïeules destinées par la multitude de leurs automnes à faire tapisserie de hautes lisses le long de la muraille. Elles avaient pourtant de fortes couleurs sur leurs joues de pommes d'api, des corsages remplis à craquer et des bas de soie à coins rouges tirés sur leurs jambes dodues, et s'étonnaient qu'une petite personne à peine potelée, presque pâle, puis lutter contre d'aussi robustes appâts et des avantages si palpables. Pour ramener à elles leurs amoureux envolés, elles faisaient les avances les plus marquées, louchaient à force de yards en coulisses, riaient bruyamment d'un rire un peu jaune. Et même Denise, en passant près du jeune droguiste, qui jusque-là s'était posé sur le pied de son soupirant ordinaire et acquitté fort régulièrement de cet office, ne put s'empêcher, pour amener à elle une attention qui s'éloignait, de lui faire ce qu'en terme vulgaire on appelle un pinson. Mais le passionné droguiste, qui parlait dans ce moment à Jeannette, aussi stoïque que le petit garçon spartiate qui se laissait ronger le ventre par le renard, ne témoigna point, par un cri ou par un geste, qu'il eut la chair tordue par des doigts, qui ne manquait pas de vigueur et à qui la colère en eût donné, quand même, ils eussent été faibles. Il ne retourna même pas la tête, et Denise fut obligée de revenir à sa banquette, sans recueillir de sa démarche l'aumône d'un coup d'œil ou le fruit d'un sourire. En vain, Javotte étendait le pied aux yeux du troisième clerc et faisait briller sa boucle de marcassite ou de caillou du Rhin pour s'attirer le compliment que le jeune suppôt de Thémis ne manquait pas de lui faire à cette occasion. Et cela ne servit de rien. Les regards du clerc étaient trop occupés ailleurs pour s'abaisser jusque-là, et mademoiselle Javotte en fut pour ses frais de coquetterie. Nanette, qui d'ordinaire n'avait pas le temps de s'asseoir, tant elle était poursuivie, perdit au moins une demi-douzaine de contredanses. Bien que personne dans cette réunion ne soupçonnât la qualité de la marquise, on eût dit que la force de la naissance et du sang plus pur produisait son effet sur ces braves gens, qui certes avaient à l'endroit de la fausse Jeannette des attentions et des délicatesses involontaires que ne leur eût pas inspiré une grisette d'égale beauté. Mais plaire à ces espèces n'était pas le but de la marquise, bien qu'elle fût flattée de l'admiration qu'elle inspirait. Des reines, dit-on, et des plus sévères, ont été quelquefois plus sensibles aux grossiers compliments d'un matelot qu'aux madrigaux étudiés des courtisans et des poètes de cour. Il y a, dans certaines brutalités, quelque chose qui ne déplaît pas aux personnes les plus délicates, et madame de Champrosay jouissait délicieusement des compliments adressés à Jeannette. La grisette répondait à la marquise de la sincérité des galanteries du chevalier, du commandeur et de l'abbé. Cependant, tourner des têtes de roturier ne suffisait pas. Elle aurait voulu être touchée elle-même de caprice ou de passion, et ne pas borner son escapade à de simples rigodons dans une guinguette. L'air modeste de la mariée, chez qui la pudeur modérait l'amour et qui cherchait à contenir l'ardeur de son jeune époux, dont les baisers bruyants, accueillis par les rires de l'assemblée, la faisaient rougir jusqu'au blanc des yeux, ramenait l'imagination de la marquise à des idées de bonheur simple et vrai, comme la nature le dispense à ceux qui ne méconnaissent pas ses lois. Elle songeait à cette main tordue par la goutte, dans laquelle elle avait mis sa main au sortir du couvent, à cette figure morne, ridée et froide du marquis de Champrosay, espèce de momie desséchée par l'ambition et la débauche, qu'elle avait trouvée si laide et si ridicule sans perruque, sous le baldaquin de son lit de noces, elle ne pouvait pas s'empêcher de dire que la cousine de sa femme de chambre était mieux traitée par l'hymen qu'elle ne l'avait été elle-même. Il est vrai que le marié n'avait pas 60 quartiers, mais il n'avait pas 60 hivers, ce qui est une compensation. Pendant que la marquise faisait ses réflexions en s'éventant de son éventail de papier vert avec une aisance qui eût pu la trahir à des yeux plus expérimentés, le fils du droguiste, le troisième clerc, méditant des aveux dont la réaction compliquée s'embrouillait dans leur tête, restait fâché devant elle, fiché devant elle comme des pieux, avec l'air le plus piteux et le plus risible du monde. Madame de Charoset s'en amusait sous cape et, par une malicieuse cruauté, ne les aidait pas le moins du monde, en sorte qu'ils roulaient des yeux comme des nègres qui ont une pendule dans le ventre. Justine, voyant sa maîtresse ainsi bloquée, vint à elle et, lui prenant le bras, fit quelques tours dans le bal en causant à voix basse. « Madame, s'est-elle ennuyée au bal de ma cousine et que lui semble de ces petites gens ?»« Non, je me suis amusée comme une femme qui danse et ces bourgeois me semblent assez joyeux. » « Est-ce là tout ? Oh oui ! Le fils du droguiste est pourtant bien vu dans la rue Saint-Avoie, et les plus jolies filles ne dédaignent pas son coup de chapeau. »« Oui, c'est possible, il m'inspire nullement l'envie de déroger. » »« Et le troisième clerc ? Tout ce qu'il faut pour passer second clerc, rien de plus. »« Je suis désolé que madame en soit pour ses frais de démérangement. » j'ai presque envie de faire avancer le fiacre et de retourner à l'hôtel. Si madame me permettait de lui donner un conseil, ce serait de rester encore un peu. Tu t'amuses donc beaucoup ? Non, je ne m'amuse pas si madame s'ennuie, mais ce sera peut-être lorsque nous serons partis que ce que nous chercherons arrivera. On attend encore quelques jeunes gens, et d'ailleurs, d'un bal comme d'un feu d'artifice, le plus beau, c'est la fin, le bouquet. » Madame de Champrosay se rendit à de si bonnes raisons et n'eut pas tort, comme on le verra tout à l'heure. Comme la vie est faite et que le train du monde est bizarre. Si Madame de Champrosay avait quitté sa place un quart d'heure plus tôt, elle n'eût jamais été amoureuse. Chapitre 7. Les prévisions de Justine ne tardèrent pas à se justifier et montrèrent toute la sagesse de cette femme de chambre modèle que M. de Marivaux n'eut pas manqué d'introduire dans une de ses comédies sous le nom de Lisette. Et Madame de Champrosay n'eut qu'à se louer d'avoir écouté le conseil de sa suivante. Le bal était à peu près à la moitié d'un bal raisonnable, c'est-à-dire à 2 heures du matin, et déjà l'on passait les rafraîchissements, consistant en cidre doux, vin de suresnes et châtaignes grises à la poêle, lorsqu'il se fit un grand bruit à la porte, et un personnage, qui paraissait d'importance, opéra son entrée d'une façon superbe et triomphante. C'était l'intendant du marquis de... qui, bon prince ce soir-là, ne dédaignait pas de venir se dérider un instant et se reposer des soucis de la grandeur dans cette petite fête. L'intendant, qui frisait la cinquantaine, avait une trogne vermeille sous sa petite perruque à boudin serré qui montrait que le culte de Bacchus possédait en lui un desservant plein de ferveur, en même temps que ses volets nerveux enfermés dans des bas chinés et sa carrure, qui se moulait dans un large habit marron, montrait qu'il était encore, malgré son âge, un vert galant et ce qu'on appelle à Cythère un payeur d'arrérage. Ce personnage, auquel toute l'assemblée marquait beaucoup de déférence, et à qui on donnait du « Monsieur de Bonnard » gros comme le bras, en amenait un autre qu'il annonça sous le nom modeste de « Monsieur Jean », un parent de province qui venait à Paris dans les soirs d'entrée commise au Gabel par sa toute-puissante protection. Il est un peu timide, ajouta à cette explication reçue avec toute la bénignité possible le majestueux monsieur de Bonnard, secouant d'un air d'aisance aristocratique à la manière des grands seigneurs qu'il tâchait de singer quelques grains de tabac d'Espagne arrêtés au pli de son jabot. « Mais j'espère que ces dames ne le traiteront pas trop en provincial et voudront être indulgentes pour les débuts d'un jeune garçon tout frais débarqué par le coche d'Auxerre et qui ne demande pas mieux que de se former aux belles manières de Paris. » Cette petite harangue terminée, Maître Bonnard pirouetta sur son talon avec assez de prestesse et croyant avoir fait tout ce qu'il fallait pour son protégé, l'abandonna lui-même, lâchant le coq parmi les poulettes, et s'en alla dire des gaudrioles aux mères et pincer la joue aux filles d'un air semi-paternel, semi-libertin, dont le secret est perdu. Monsieur Jean, que Jeannette regardait de son coin avec beaucoup d'attention, n'avait pas autant de disgrâce qu'on aurait pu l'attendre d'un provincial. Il se tenait même avec assez d'aisance, surtout en pensant à l'embarras qu'il devait éprouver de se trouver seul dans un bal où il ne connaissait âme qui vive, au milieu de bourgeois ayant pignon sur rue, de drogues de clercs d'huissier, de femmes de chambre de grande maison, mises comme des princesses, et de marchandes cossues, toutes vêtues de soie flamboyante et portant des coques de perles aux oreilles. Il avait la taille bien prise pour une taille de province. Son habit de droguet tourterelle à boutons d'acier, sur une veste de soie rayée lilas, ne faisait pas trop mauvaise figure pour avoir été coupé dans une petite ville. Le nouveau venu, à ce que remarqua Jeannette, avait la jambe belle et le pied petit, et son soulier, ciré à l'œuf où scintillait une boucle d'acier, le chaussait à merveille. Quant à la figure, il avait une physionomie charmante à laquelle ne nuisait pas un certain air d'ingénuité que les femmes, même les moins usagées, ne haïssent pas de trouver aux jeunes gens. Son œil, quoique doux, ne manquait pas de feu et à la vérité de son vivacité de son regard, on devinait que, s'il n'eût été retenu par sa timidité, il se fût montré aisément spirituel. Cette timidité n'allait cependant pas jusqu'à cette bêtise qui étrangle les débutants, leur fait commettre des bévues sur bévues et les rend les plus ridicules du monde. Quoique de province, il ne paraissait pas éprouver ces vertiges de niaiserie qui poussent un malheureux jeune homme brûlant d'inviter une jolie cousine dont il est amoureux, comme il convient, à demander pour la contredanse un affreux lettron qu'il aborde. Il alla, de l'air le plus humblement poli, mais toutefois sans trop de confusion, inviter du premier coup la plus jolie, la plus élégante et la plus fêtée du bal, c'est-à-dire mademoiselle Jeannette en personne. Ce coup d'éclat stupéfia trois ou quatre dadais à tournure d'échalas, à cheveux de filasse et à mains rouges, qui tournaient depuis une heure autour de Jeannette comme des hérons en peine, changeant de patte de temps en temps et méditant le projet chimérique et fabuleux d'inviter la belle ouvrière en dentelle pour la prochaine. Un soupir plein de mélancolie s'échappa de la poitrine des quatre imbéciles qui, bien que nés rue du Puy qui parle, de la femme sans tête, de l'homme armé et du petit musc, ne purent s'empêcher d'envier la facilité avec laquelle ce petit gringalet débarqué d'Auxerre se présentait aux jeunes filles, jolies filles. L'aimable droguiste, qui croyait n'avoir pas produit une impression désagréable sur mademoiselle Jeannette, et qui depuis le commencement du bal se torturait l'esprit pour en tirer des madrigaux et des compliments qui ne sentissent pas trop leur rue Saint-Avoie, ne vit pas entrer dans la lice ce nouveau concurrent sans en éprouver du déplaisir. Car on a beau dire que l'amour-propre aveugle l'homme, il n'aveugle pas assez les droguistes pour ne pas leur faire redouter la présence d'un joli garçon auprès de l'objet de leur préférence. Le troisième clerc ne put s'empêcher non plus de regarder d'un œil farouche et de maudire in petto monsieur Bonnard d'avoir amené ce jouvenceau propre à étirer à quatre épingles, qui réussissait, au bout d'une phrase, mieux que lui au bout de 2 heures de soins et de galanterie. Car le sourire avec lequel Jeannette accueillit la demande de monsieur Jean avait quelque chose de si gracieux, de si doux et de si bienveillant que le basochien en éprouva de la jalousie. Il n'avait jamais obtenu, lui, que de petits sourires du bout des lèvres et comme accordés par grâce, et pourtant sa gaieté intarissable eût déridé les morts, et cette soirée avait été pour lui la soirée suprême. Monsieur Jean prit délicatement mademoiselle Jeannette par le bout de ses jolis doigts et la conduisit à sa place dans la danse. Il ne s'acquitta pas mal des figures, ne se montra nullement emprunté, et si monsieur Bonnard n'avait pas dit que ce jeune homme arrivait de province depuis peu, on ne s'en serait vraiment pas douté. « Vous n'avez jamais vu Paris, monsieur Jean ?» dit Jeannette à son partenaire dans l'intervalle d'une contredanse. « Non, non, mademoiselle, c'est la première fois que je viens dans cette grande ville. »« Et que vous en semble ?» répond-elle à ce que vous imaginiez. « Oui, non, j'y trouve des monuments superbes qui attestent la puissance de le roi et la richesse des particuliers. Mais tout cela mêlé à tant de misère, de boue et de fumée, que je ne sais pas si je dois admirer ou blâmer. Ce que j'ai vu de plus remarquable à Paris jusqu'à présent, c'est vous, soit dit sans vous flatter. Oh, si vous n'avez vu que moi de remarquable, c'est qu'il n'y a pas longtemps que vous êtes débarqué, et vous n'avez pas eu le temps de pousser vos observations bien loin. Mais j'ai trouvé, je ne chercherai plus. Quoique de province, je sais apprécier la beauté, la décence et les grâces, ce qu'elles valent. Taisez-vous, vilain flatteur, vous allez me faire rougir. Mais quel plus joli fard pourrait colorer vos joues que le sang de votre cœur ému par l'accent honnête d'un garçon qui vous aime. À qui je plais, je le veux bien. Quoique modeste, on sait qu'on n'est point fait à t'inspirer de l'horreur, mais comment pouvez-vous dire que vous m'aimez? Vous me connaissez à peine depuis 1 heure. 1 heure, il n'en faut pas tant. Je ne vous ai pas plutôt aperçu que j'ai senti là que je vous appartenais. Je ne vous connais pas, grand Dieu, mais n'ai-je pas vu l'expression céleste de votre regard, la grâce charmante de votre sourire, entendu le son argenté de votre voix? N'ai-je pas touché votre main avec une pression légère? N'ai-je pas, en dansant, respiré votre bouquet, parfumé par votre sein? Ne sais-je pas que vous avez les cheveux blonds, la taille souple et nonchalante, que vous dansez à ravir? Mais qu'aurais-je appris de plus sur vous quand je vous aurais suivi pas à pas pendant plusieurs mois, comme votre chien ou comme votre ombre? Une existence claire et limpide comme la vôtre se pénètre d'un seul coup d'œil. Vous croyez, répondit la fausse Jeannette, qui ne put réprimer un imperceptible sourire à ces dernières paroles de monsieur Jean. Oui, j'ai les yeux bleus et les cheveux blonds, comme vous l'avez très bien remarqué, mais qui vous dit que je ne sois pas perfide, acariâtre, méchante, insupportable? Toute jeune fille est charmante au bal, et la danse adoucit les caractères les plus revêches. Oh, calomniez-vous à plaisir! Les divinités peuvent seules mal parler d'elles sans blasphémer. Mais vous ne me ferez pas changer d'avis. Eh bien, soit, je suis un composé de perfection. Oh, je ne contesterai pas là-dessus avec vous, quoiqu'il y ait bien d'exagération dans ce que vous venez de dire. Mais de tout cela, il ne s'ensuit pas que je doive accepter votre amour aussi vite qu'il est né. Mais qui vous demande cela? Je veux, si vous me le permettez, vous prouver combien peut être durable un sentiment qui a eu besoin que d'une minute pour naître et d'une heure pour se développer. Oh, je vous en préviens, si cette fantaisie née avec le bal ne meurt pas avec lui, et si vous vous souvenez de la petite ouvrière en dentelle que le contraste de plusieurs laides ronds vous a fait trouver gentille, vous serez obligé de me faire une cour dans les règles, de filer le parfait amour comme un héros de roman d'autrefois. Et il n'est pas dit qu'au bout de toutes ces épreuves, je ne vous rie au nez et ne vous fasse une belle révérence en vous disant « Votre servante ». Chapitre 8. Un nouveau rigodon interrompit cette conversation à propos, et Justine, qui se tenait discrètement à l'écart et chaperonnait assez négligemment sa prétendue nièce, comprit bien vite, avec cette profonde entente du cœur humain en général, et de celui de leur maîtresse en particulier, qu'ont les femmes de chambre dignes de ce nom, que Madame de Champrosay s'intéressait à Monsieur Jean d'une façon assez suivie et n'était pas loin de voir son vœu exaucé. Le bal tirait à sa fin. Les ménétriers, fatigués de racler, de souffler et de taper leurs instruments, tâchaient vainement de réveiller un reste d'ardeur en profitant des pauses de la musique pour suvecter le gosier. Le sommeil et l'ivresse les gagnaient. Les quinquets commençaient à manquer d'huile, et les bougies, arrivées à leur fin, menaçaient de faire éclater leurs bobèches. L'aurore, qui venait de quitter la couche du vieux Titon, jetait à travers les rideaux ses tons de pastel bleuâtre. Quelqu'un de bien avisé proposa, avant de rentrer se coucher, d'aller dans les prés Saint-Gervais voir le lever de l'aurore, boire du lait chez le nourrisseur et cueillir des lilas. On était au commencement de mai, qui est l'époque de ces fleurs si chères aux Parisiens, et dont ils admirent avec raison les jolis tirses violets. La proposition fut accueillie comme elle le méritait, et tout le bal, même les gens d'âge plus mûr, à qui le lit aurait mieux convenu qu'une course dans la rosée, partit avec des cris de joie pour les fameux prés, une des plus fraîches verdures des environs de Paris. Monsieur Jean offrit son bras à Mademoiselle Jeannette, qu'il accepta, sous la sauvegarde toutefois de Mademoiselle Justine, qui répondait de sa vertu. Le droguiste offrit le sien à Denise, qui, tout heureuse de reprendre son captif, ne jugea pas à propos d'entrer dans des récriminations inutiles. Le troisième clerc fut tout heureux que Nanette, la belle aux boucles de marcassite, voulut bien marcher à côté de lui, et ainsi appareillée, la bande s'enfonça, couple à couple, dans les petits sentiers qui séparent les massifs odorants. Parmi ces groupes, la plupart d'amants et de fiancés, quelques baisers, grâce au détour des allées, avaient été pris et rendus, car ces choses-là ne se gardent pas. Monsieur Jean, lui, n'osa pas s'émanciper jusqu'à de telles hardiesses. Mais il serra quelquefois contre son cœur le bras de Madame de Champrosay, pour laquelle il fit la plus énorme gerbe de lilas blanc et violet que jamais grisette ait emporté des prés Saint-Gervais dans sa mansarde. Il avait renversé pour elle toute la corbeille de flore. C'eût été un charmant sujet de tableau pour Monsieur Lancret, peintre des fêtes galantes, que ces groupes d'amoureux qui se perdaient exprès dans les étroites allées. Ces jupes de soie et de Pékin, aux couleurs riantes, tranchant sur le fond de la verdure, ces corsages qui, sans être échancrés avec la noble impudence des femmes de la cour, laissaient apercevoir, ou plutôt deviner, des charmes naissants, mais déjà mûrs pour l'amour, ses bras jetés nonchalamment autour des tailles, ses têtes rapprochées sous prétexte de se parler bas, ses lèvres adressant à la joue la confidence destinée à l'oreille, tout cela invitait le pinceau d'un artiste accoutumé à sacrifier aux grâces et formait un coup d'œil aussi agréable pour les yeux que pour le cœur. Un peu en arrière marchaient des groupes de parents et de personnes entre deux âges, les papas en grand habit à la française à large basque, à gros boutons miroitants, d'une coupe pleine de bonhomie, la main fortement appuyée sur la canne à bec de Corbin, le lampion carrément enfoncé sur la tête, et les mamans, dodues et vermeilles, encore appétissantes, vêtues de leurs robes de noces élargies et d'étoffes à grand ramage et à grandes fleurs, à la mode au commencement du règne, écoutant les gaudrioles de leurs compères, en guignant leurs filles du coin de l'œil, bien qu'elles fussent sûres de la sagesse de leurs enfants. Ces groupes que le peintre eût pu colorer de tons plus chauds et plus mûrs faisaient ressortir à merveille toute cette jeunesse éclatante et fraîche que l'aurore baignait de sa lueur rose, l'aurore, cette jeunesse du jour. Monsieur Lancret eut assurément mis Jean et Jeannette au centre de sa composition. Pour se garder de la fraîcheur, Jeannette avait jeté sur ses épaules la calèche de taffetas-gorge de pigeon. Mais la soie avait glissé, et comme elle penchait la tête, on voyait sa nuque blanche et polie, où brûlaient quelques petits cheveux follets échappés au peigne d'acier qui mordait son chignon. Elle se tenait serrée contre M. Jean, pour éviter les branches emperlées de rosée qui dégouttaient sur sa robe, et semblait vouloir lui barrer le passage pour la retenir plus longtemps. C'était du moins la raison qu'elle se donnait à elle-même. Car il était sûr qu'elle pesait sur le bras de M. Jean plus que nous exigeait un chemin parfaitement uni et sa légèreté naturelle. Pour se donner une contenance, elle faisait prendre à sa figure un bain de fleurs en la plongeant dans la grosse touffe qu'on avait cueillie pour elle, noyant ainsi les roses dans les lilas. On arriva chez le nourrisseur, qui se hâta de traire ses vaches, étonné de voir leur étable envahi par ces joyeuses troupes, et qui retournait la tête tandis que leur lait écumeux tombait dans des jattes d'une propreté fabuleuse. Comme le nourrisseur n'avait pas une quantité de tasses suffisante, Jean et Jeannette, qui formaient un couple que déjà l'on ne séparait plus, tant la nature les avait bien assortis, n'eurent qu'une tasse pour eux deux. Jeannette but la première et Jean put retrouver sur le bord de la coupe l'empreinte des lèvres charmantes de la jeune ouvrière en dentelle. Les vieux et M. de Bonnard se firent apporter du vin, préférant le jus de la vigne à ce régal arcadique et fait pour des morveux sevrés depuis peu de temps. Puis enfin, on se sépara. Au moment de se quitter, M. Jean demanda s'il aurait le bonheur de revoir Mlle Jeannette. Et celle-ci, s'étant consultée quelques minutes avec Justine, lui répondit qu'elle irait le surlendemain reporter de l'ouvrage à une pratique et que, si M. Jean se voulait trouver rue Saint-Martin à 3 heures du soir, on pourrait faire un bout de chemin ensemble. Puis le fiacre qui les avait amenés vint les reprendre, et Madame de Champrosay, rentrant dans son appartement par l'escalier dérobé, qui ne manquait jamais aux maisons même les plus vertueuses du XVIIIe siècle, se livra, sous le ciel armorié de son lit, un sommeil que traversa plus d'une fois l'image de M. Jean. Chapitre 9. La belle dormeuse s'éveilla à midi passé, heure qui n'avait rien d'invraisemblable, et avant laquelle il était rare qu'elle sonnât jamais. Pour tout le monde, excepté pour la fidèle Justine, elle avait bien réellement passé la nuit à l'hôtel, et qui que ce soit au monde ne pouvait soupçonner son équipée, à laquelle personne d'ailleurs n'avait le droit de trouver à redire, puisqu'elle était veuve et libre de ses actions. Mais il est si facile de faire ce que l'on veut en gardant les bienséances les plus étroites, qu'il n'y a que les maladroits qui sautent volontairement ce vernis de bonne réputation, toujours agréable et nécessaire. La discrétion de Justine était assurée. La marquise possédait un secret que pour tout au monde sa femme de chambre n'eût voulu voir divulgué. En outre, une rente assez considérable, promise à Justine au bout d'un certain nombre d'années, si l'on était content d'elle, répondait de sa fidélité. Madame de Charrosay ne risquait donc rien avec elle. Les rideaux doubles et les volets rembourrés qui protégeaient ce temple du sommeil contre la lumière et le bruit furent ouverts, et Phébus, admis au petit lever de la marquise, vint lui faire sa cour et papillonner dans la ruelle. Justine leva sa maîtresse un peu fatiguée, ou plutôt alanguie de ses prouesses du bal, car Terpsichore, qui donne de si fortes courbatures aux hommes, n'a pu parvenir encore à lasser véritablement une femme, tant ce sexe charmant et léger est fait pour la danse. Un bain était préparé. Justine y plongea sa maîtresse, et si quelque indiscret se fût trouvé là, sans être couronné de bois de cerf et dévoré par les chiens, comme Actéon, il eut vu des appâts bien plus parfaits que ceux de Diane, car il n'est point croyable qu'une déesse vraiment bien faite se fût gendarmée à ce point d'avoir été surprise nue. Il fallait qu'elle y perdît, et ne se soucia point qu'on fît de ses charmes un détail qui ne leur eût point été favorable. Ce n'était pas le cas de Madame de Champrosay, de qui l'on pouvait dire que la parure ne lui ajoutait rien, et même qu'elle lui ôtait. Quand le corps de Madame de Champrosay se fut déroulé dans l'eau parfumée et tiède, une conversation s'établit entre la maîtresse et la suivante. On pense bien qu'il y fut question de Monsieur Jean. « N'as-tu pas remarqué, disait la marquise à Justine, combien ce jeune homme diffère des autres qui se trouvaient là, et ne trouves-tu pas qu'il a le meilleur air du monde ?»« Bon, je suis de l'avis de madame, répondit la complaisante Justine. Ce garçon paye effectivement de mine. » Oui, n'est point emprunté ni gauche dans ses manières. Oh, pour cela, non, il a des façons fort bonnes. Il s'exprime agréablement, ses mots, pour être simples, n'en ont pas moins choisi. Pour cela, je m'en rapporte à l'avis de madame, qui s'y connaît mieux que moi. Et d'ailleurs, ce jeune homme parlait trop bas et trop près de l'oreille de madame Jeannette pour que je l'entendisse. Penses-tu qu'il soit amoureux de moi ? Je crois que madame n'a pas besoin de mes lumières là-dessus. Mais il m'a dit des galanteries, il m'a même fait une déclaration, mais ce n'est point assez. Oh, je veux savoir s'il sent à mon endroit une de ses passions, fortes et soutenues, comme tu dis que les roturiers en éprouvent. D'autant que je puis me fier à mes faibles connaissances, monsieur Jean me semble avoir dans le cœur le germe d'un amour véritable. Mais le germe seulement. Un peu de vertu et de résistance ferait de cela une de ces passions dont je parlais à madame et qui n'existe point dans le grand monde. Oh, Justine, il me paraît que vous êtes un peu bien impertinente. Il semblerait, a-t-on dire, que nous autres, duchesses et marquises, nous n'ayons pas la défense qu'il faut dans les choses d'amour. On n'est pas grande dame pour se gêner en tout, et les règles de morale, faites pour les petites gens, n'ont rien qui doive gêner les personnes de qualité, mais je voulais insinuer que c'était peut-être grâce à cela que les marquis, vicomtes et chevaliers ne sont amoureux que superficiellement. Ainsi donc, si je veux être aimé de monsieur Jean, tu me conseillerais la vertu ? Bon, je n'aurais pas osé dire cela formellement à madame, de peur de lui paraître ridicule, mais telle est mon idée. Mais quelle fille singulière tu fais, Justine! Tu as vraiment des imaginations de l'autre monde. Mais je m'y conformerai, ne fût-ce que pour voir. Madame veut-elle sortir du bain? Oui, allez, roule-moi dans un peignoir et porte-moi à mon lit. Nous continuerons la conversation. Quand Madame de Champrosay se fut établie sur les oreillers que Justine faisait bouffer d'une main légère, l'entretien se poursuivit de la sorte entre la maîtresse et la femme de chambre. « Justine, cela contrariera peut-être tes idées de vertu, mais j'ai donné rendez-vous à Monsieur Jean. Rendez-vous en plein vent, il est vrai, et qui ne peut tirer à conséquence, mais un rendez-vous, enfin. Madame, je ne vous blâmerai point de cela. Puisque vous désiriez poursuivre cette aventure, il ne fallait pas en perdre tout d'abord la trace. Sans ce rendez-vous, comment aurions-nous retrouvé M. Jean, que nous ne connaissons pas, à moins de le demander à M. Bonnard, qui le connaît? Tu as l'esprit judicieux, Justine. Mais ce projet, quoique bien conçu, ne laisse pas connaître assez embarrassant à l'exécution. Mais que Mme la Marquise daigne se reposer sur moi des détails et des fatigues de l'exécution. Je m'en vais lui dérouler mon plan de campagne. D'abord, il me faudrait 25 louis. Prends-les, il y a de l'or dans le tiroir du petit bureau en bois de rose, là-bas, près de la fenêtre. Je les ai. Alors continue maintenant. Avec ces 25 louis, je vais louer une jolie chambre très virginale et très modeste. Je la garderai de meubles tels que peut les avoir une ouvrière en dentelle, qui a les doigts agiles et à qui l'ouvrage ne manque pas. Car si vous voulez voir plus tard, monsieur Jean, avec un peu plus de commodité et de mystère que dans la rue, vous ne pourrez, à moins de détruire complètement son illusion, le recevoir à l'hôtel de Champs-Rosé, où votre Suisse ne serait pas médiocrement étonné de s'entendre jeter un nom si uni. Mais tu raisonnes à merveille. Oui, cette chambre me paraît le plus nécessaire du monde. Je l'arrêterai dans la journée, puisque madame en tombe d'accord. Il faudrait ensuite un trousseau complet. Fourreau, déshabillé, casaquin, cornette, car la garde-robe de madame de Champs-Rosé, toute bien fournie qu'elle soit, ne peut servir à mademoiselle Jeannette. Abondance de bien nuit, quelquefois. Mais tu es sentencieuse comme un philosophe. Mais tu as raison, ce qui n'arrive pas toujours aux philosophes. Le trousseau est accordé. Mais que tout cela soit de bon goût, je ne veux pas pousser le travestissement jusqu'à n'être pas joli. Soyez tranquille, on vous aura des toiles fines qui ne vous blesseront point, des millerets roses et blancs ou blancs et bleus, des indiennes à petits bouquets et autres étoffes printanières, fraîches et de peu de prix, que la saison autorise. Et comme madame est blonde et que ses cheveux sans poudre vont paraître davantage, il lui faudra de petits bonnets, simples et coquets, où, vu l'état de Jeannette, nous pourrons mettre de la dentelle. « Mais ce sera charmant, » dit en frappant de ses petites mains l'une contre l'autre, la marquise, déjà tout enthousiasmée de ses toilettes, dont l'idée lui souriait comme à un gourmet celle d'un repas de bimbi, de crème et de fraises fait sur l'herbe, au printemps, devant quelques métairies. « Mais madame serait du mieux, du dernier mieux, même en torchon. Elle pare tout ce qu'elle porte. » Et d'ailleurs, les choses n'ont pas toujours besoin de coûter beaucoup pour être jolies. Et elle ne sera pas, je l'espère, trop rebutée de sa garde-robe de grisette. Tu sais, ce qui va me coûter beaucoup, toi, ce sera de ne pas être chaussée de soie. Mais il y a des bas de fil ou de coton si fins que madame ne s'apercevra pas de la différence. L'on pourrait même risquer le bas de soie sans pécher contre la vraisemblance, car quelques-unes d'entre les plus huppées des grisettes se permettent cette coquetterie. Tu me rassures, mais comment nous arrangerons-nous demain pour aller à ce rendez-vous? Je ne puis sortir d'ici à 3 heures en grisette. Mais assurément non. Mais madame n'a qu'à se faire conduire par son carrosse à quelque église ou à quelque magasin ayant une double issue, où un fiacre nous attendra. Nous y monterons et nous irons à la chambre de Jeannette où j'habillerai madame de façon à lui faire croire qu'elle n'a jamais fait toute sa vie que de la dentelle.